Prions ensemble. Seigneur, dans la joie d'être sauvés, nous nous approchons de toi. Dans la joie d'être tes enfants bien-aimés, nous nous approchons de toi. Nous sommes tes bien-aimés, Seigneur. Et ce n'est pas rien. C'est un grand privilège, c'est une grande joie. C'est le plus grand privilège de nos vies. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Seigneur, à la base, nous ne sommes rien que des rebelles, destinés à ta colère, mais maintenant tu nous as rapprochés de toi et nous sommes dans ta maison. Merci parce que être dans ta maison, c'est aussi être au bénéfice de ton œuvre dans nos vies et de ton enseignement dans nos vies. Tu veux nous faire croître dans la foi, tu veux nous faire croître dans la connaissance, tu veux nous faire croître dans le service, tu veux nous faire croître dans le témoignage. Et pour cela, Seigneur, tu nous dispenses ta parole. Alors nous voulons maintenant, Seigneur, nous approcher de ta parole. Nous voulons l'étudier, nous voulons la comprendre. Nous voulons nous laisser enseigner par toi en la lisant, Seigneur. Nous prions vraiment que ces instants soient des moments bénéfiques, qu'ils soient des instants qui vont nous permettre d'être construits dans notre foi, dans notre marche avec toi. Nous voulons bâtir notre foi sur la vérité de ta parole, sur ce qu'elle dit et sur ce qu'elle nous invite à être et à faire. Seigneur, dans ces instants, nous te demandons vraiment toute l'assistance de ton esprit. Nous te demandons l'assistance de ta grâce afin que cet enseignement, Seigneur, nous fasse croître en toi et pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour tous tes bienfaits et que vraiment tu puisses prendre toute la place en ces instants. Amen. Amen. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Alors, pour ceux et celles qui étaient là, ben voilà, vous vous souvenez un peu de ce qu'on a dit. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous aurez l'occasion de réécouter la première partie qui est déjà sur le site d'ailleurs. Pour les personnes qui peut-être sont là pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude et qui seraient peut-être perturbés par ce qu'on va expliquer aujourd'hui, par ce qu'on va enseigner aujourd'hui, n'hésitez pas à venir me voir après si vous ne comprenez pas trop, puisque ce sont des cultes particuliers d'enseignement et donc voilà, on peut parfois aborder des choses plus difficiles à comprendre. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui auraient un besoin à la fin du culte, je suis disponible. Pour rappel, nous avons commencé un enseignement la semaine passée sur le thème de l'imposition des mains. Et nous avons expliqué que la parole de Dieu nous montre ce geste comme étant un geste fondamental de la vie du peuple de Dieu. Nous avons vu que Hébreux le cite dans les élémentaires de la foi, autant que la foi en Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, le sujet de l'imposition des mains est cité dans Hébreux 6, alors que c'est un sujet qu'on aborde très peu. Pourtant, la Bible y donne de l'importance. Nous avons aussi montré que l'imposition des mains est un geste qu'on retrouve dans toute la Bible. C'est important. C'est pas un geste isolé, c'est un geste qu'on trouve dès la Genèse. Dès la Genèse de la Bible, on nous parle de l'imposition des mains, mais on en parle aussi dans plein d'autres textes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu que ce geste est un geste qui a été perpétué par les apôtres, c'est un geste que nous sommes invités à perpétuer, c'est un geste qui a toute son actualité dans la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'on a parlé des différents usages de ce geste. On a parlé de cet usage pour bénir les enfants. Là, je parle de quand un parent bénit son enfant. On a parlé de cet usage pour appeler l'effusion de l'esprit sur une personne. On a parlé de cet usage pour prier pour les malades et on a parlé de cet usage pour installer ou pour consacrer des responsables dans l'Église ou dans la mission. Hein, vous vous souvenez de tous les versets qu'on a vus. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Et on avait terminé justement par ce passage de l'Évangile qui nous montre que Jésus lui-même a pratiqué l'imposition des mains. Il a béni les enfants. Jésus a béni les enfants, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. D'où la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, nous imposons les mains aux enfants dans l'église locale. Vous voyez encore une fois que ce n'est pas une tradition inventée par les hommes. Jésus lui-même l'a fait et nous a ainsi montré le chemin pour demander une bénédiction de Dieu sur les enfants. Maintenant, nous allons parler d'un autre type d'imposition des mains, de quelque chose qui s'y apparente, et ensuite on va conclure et on passera à un autre sujet. On va faire tout aujourd'hui. Donc accrochez-vous. Si vous avez faim, dites à votre estomac de se calmer, parce qu'il ne mangera pas avant, à mon avis, 14h, vous n'aurez pas encore mangé aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Autre sujet, c'est l'imposition des mains pour toute l'assemblée. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'encore une fois, on en parle très peu, mais l'imposition des mains, c'est un geste que l'on peut faire pour des individus, mais c'est aussi un geste qui, par extension, peut se réaliser pour toute l'assemblée. Alors, vous connaissez dans la Bible ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale. Vous la connaissez tous dans cette salle. Vous la connaissez tous, sans exception, sauf que vous ne savez pas qu'on l'appelle la bénédiction sacerdotale. C'est la bénédiction que Dieu a ordonnée aux sacrificateurs de faire sur le peuple de Dieu. C'est la bénédiction sacerdotale qu'on appelle Birkat Kohanim, qui jusqu'aujourd'hui est pratiquée dans les synagogues. C'est Dieu qui a ordonné aux responsables de son peuple, aux Lévites en particulier, d'appeler la bénédiction sur le peuple de Dieu. Dieu a ordonné d'appeler la bénédiction sur son peuple au travers d'une parole et d'un geste particulier. Alors souvent, nous, on skip ça. Mais Dieu a ordonné qu'on prie pour bénir son peuple et il a ordonné un geste d'imposition des mains pour bénir son peuple. Alors, vous voyez par exemple que Dieu a mis à part les gens, les hommes de la tribu de Lévi, pour bénir le peuple. Deutéronome 10, verset 8, « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. » Les Lévites sont mis à part pour bénir le peuple de Dieu. Vous pourrez lire Deutéronome 21, verset 5 également. Ils sont invités à bénir le peuple de Dieu par une bénédiction particulière et spécifique que vous connaissez tous. L'Éternel parla à Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse, et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Vous le connaissez tous, puisqu'au temps du Covid, on le chantait tout le temps. Vous vous souvenez? Oui, non. Vous retrouverez la vidéo. Dieu ordonne aux Lévites de bénir le peuple. Alors, vous voyez que c'est des personnes particulières qui devaient le faire, et vous voyez que la Bible, en fait, nous montre par quelle manière ce geste était posé. Alors, il n'y a en réalité aucun doute là-dessus, puisque, comme je le dis, cette bénédiction est une bénédiction qui est faite jusqu'aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Et je n'ai pas pris l'image, mais il y a un geste particulier que les Lévites font, on dit que les Cohen font, pour bénir les gens qui sont à la synagogue. Et ce geste, il est contenu dans ce passage-là, mais on peut aussi le lire dans le passage de Lévitique 9, 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Donc la bénédiction que nous venons de lire, c'est une bénédiction qu'il faisait les mains levées. Raison pour laquelle on parle d'une imposition des mains communautaire, si vous voulez. C'est-à-dire d'un appel de la bénédiction de Dieu qui n'est pas sur un individu avec les mains posées sur l'individu, mais sur toute l'assemblée, les mains levées. Ils appelaient la bénédiction de Dieu en levant les mains et en priant la bénédiction qui est inscrite dans Nombre, chapitre 6. Dieu ordonne aux fils d'Aaron de bénir le peuple, et la bénédiction, c'est une bénédiction qui est profonde. Alors aujourd'hui, on l'envoie dans des messages et tout ça, enfin, voilà. Mais quand on lit cette bénédiction, elle est très forte, elle est puissante, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit comment il fallait bénir. C'est ça qui est beau. C'est Dieu lui-même qui nous dit dans quel terme le peuple de Dieu doit être béni. C'est une bénédiction qui révèle tout ce que Dieu veut pour son peuple. La bénédiction, la protection, la faveur, la lumière de Dieu, la paix. Et Dieu s'engage, et c'est pour ça que c'est important, Dieu s'engage à ce que lorsqu'on bénira son peuple en ces termes-là, il bénira son peuple, et Dieu va répondre à la bénédiction de ses serviteurs en inscrivant son nom sur ses enfants. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez qu'on commence par cette prière, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est puisse illuminer ta vie, ta personne, ton être, ton existence, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te soit favorable et qu'il te donne la paix. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus que ça, nous autres enfants de Dieu? Mais si on a ça toute notre vie, mais c'est le bonheur. Dieu qui se tourne vers moi, qui met sa lumière dans ma vie, c'est en fait la bénédiction qui représente le summum de ce que nous pouvons souhaiter de la part de Dieu. Et Dieu dit, ils prieront comme ça, et j'inscrirai mon nom sur leur front, et je les bénirai. Alors c'est intéressant de voir que nous autres, souvent dans nos gentilles églises, nous avons toujours cette impression que Dieu agit uniquement de lui à nous. Hein? On va dire comme ça qu'on va penser que la bénédiction de Dieu, il la donne et puis elle vient jusqu'à nous directement. Et pourtant, Dieu décide qu'il y a un geste particulier par lequel il va bénir son peuple et qu'il y a une parole particulière par laquelle il va bénir son peuple. Vous voyez que cela doit vraiment nous faire réfléchir. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu institue des moyens par lesquels il agit. Et l'imposition des mains, c'est un des moyens par lesquels il agit. Alors, nous devons faire attention, et j'en parlerai énormément après, nous sommes malades, et nous avons raison d'être malades, nous sommes malades parce que nous autres, les protestants, nous sortons d'un système qui consiste justement à donner trop d'importance aux gestes, le catholicisme. Donc, le protestantisme est basé sur le refus de donner trop d'importance aux gestes. Par exemple, de penser que si je mets de l'eau sur quelqu'un, il devient enfant de Dieu. C'est pas biblique. Donc le geste seul ne peut pas sauver quelqu'un. Mais donc, comme nous sommes en réaction à ça, nous avons tendance à mettre tous les gestes à la poubelle et à considérer que Dieu agit comme ça. Et puis, non, Dieu a institué des gestes particuliers par lesquels il agit au milieu de son peuple. Le geste tout seul n'a pas de valeur. Mais le geste, quand il est fait selon Dieu, selon le plan de Dieu, il a une importance. Alors, vous êtes des gentils, vous autres, et il y aura toujours un petit malin pour inventer quelque chose. Alors, on va s'amuser ensemble. Qui est bien d'accord avec moi ? Que ce geste n'a été posé que dans l'Ancien Testament. Ce geste de lever les mains pour bénir le peuple de Dieu. Qui pense, comme moi, que ce geste n'a été posé que dans l'Ancien Testament? Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne savez pas? Gino, il sait, mais tu ne peux pas le dire, toi. Tu ne peux pas le dire. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Donc, à l'ascension, il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Hein? Alors ça, c'est important, n'est-ce pas? C'est que nous, souvent, on a l'impression que, non, en fait. Et à un grand moment, Jésus l'a fait, c'est juste avant de monter au ciel. C'est comme si Jésus disait, on a passé notre temps ensemble, j'ai été là avec vous et maintenant je vous laisse ma bénédiction. Et le texte ne nous dit pas juste que Jésus les a bénis, la Bible nous dit que Jésus leva les mains et qu'il les bénit. Donc c'est un geste que même Jésus a fait sur le peuple de Dieu. Raison pour laquelle, j'ouvre une parenthèse, mais c'est pour, parce que ça aide de structurer un peu les choses, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, il y a la tradition qu'à la fin du culte, le pasteur lève les mains pour bénir le peuple de Dieu. Vous l'avez déjà vu dans une messe, hein, à la fin, le prêtre lève les mains et dit « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » C'est pas inventé, hein. C'est pas un gars qui s'est levé un jour et qui a dit « On va mettre ça dans la liturgie. » Ça, c'est basé sur l'Écriture de pouvoir représenter ce geste de Jésus qui laisse sa bénédiction avant de partir. L'Église est rassemblée, nous sommes tous ensemble dans la joie, dans le bonheur. Et avant de nous séparer, nous demandons la bénédiction de Dieu, qu'elle reste avec nous, qu'elle demeure sur nous en levant les mains. Et vous voyez que ça c'est une image d'une Église réformée. Les Églises réformées, c'est toujours la Bible au milieu. Ça, c'est très important. Vous voyez ici, je la cherche, elle n'est pas là. Et donc, vous voyez que c'est une tradition, mais ce n'est pas une tradition inventée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que la tradition, pour la tradition, c'est mauvais. Mais il y a des choses qu'on doit faire dans la Bible, qu'on doit faire dans l'Église. Bravo Coralie. Grâce à toi, on est des vrais protestants. Il y a des gestes qu'on doit faire en se fondant sur les Écritures. Et même l'idée de mettre la Bible au centre, encore une fois, c'est une tradition. La Bible dit pas que ça doit être comme ça, mais ça nous permet de saisir quelque chose de la parole de Dieu. Et donc, vous voyez que dans les Églises réformées, ça se faisait. Et donc, à côté, là, ce sont les anciens. Vous pouvez les reconnaître. Il y a Jean-Pierre aussi sur l'image. Oui, à gauche. Oui, c'est ça, tout à gauche. Donc, voilà. Donc, vous voyez que ce sont des choses que nous trouvons dans la Bible. Et donc, la prière de bénédiction à la fin du culte est une prière au travers duquel l'Église quitte son état de peuple rassemblé, elle prie pour la bénédiction de Dieu sur chacun de nous, et ensuite nous retournons dans le monde pour être des lumières dans le monde. Nous gardons avec nous la grâce de Dieu et nous sommes envoyés dans le monde comme disciples, comme sel de la terre, comme lumière du monde, avec la grâce de Dieu qui repose sur nous. Le Nouveau Testament est rempli de bénédictions. Nous avons lu celle de Nombre, chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dans le Nouveau Testament, il y en a plein des bénédictions. Il y en a presque dans chaque épître. Presque chaque épître contient une bénédiction. Alors une bénédiction de salutation, que la grâce et la paix vous soient données, et aussi des bénédictions de clôture, comme celle-ci, que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les apôtres clôturaient leurs écrits par des bénédictions. Alors celle-ci est très belle, mais il y a aussi cette très belle bénédiction que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, et que vous soyez gardés irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est puissant comme parole. Et lorsque nous prions ces paroles de la Bible, lorsque nous demandons ces bénédictions à Dieu, ce ne sont pas des paroles en vain, ce sont des moyens au travers duquel Dieu bénit son peuple et Dieu fait grâce à son Église. Alors, la pratique de l'imposition des mains pour nous aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a plusieurs circonstances dans lesquelles on peut être amené à imposer les mains. Premièrement, pour bénir ses propres enfants. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui de ne pas bénir nos propres enfants en leur imposant les mains. C'est juste des habitudes qu'on ne prend pas. Et pourtant, la Bible nous montre que c'est ce qui se faisait dans les Écritures. Je connais des gens, des pères qui prient déjà sur le ventre de leur épouse avant même la naissance de l'enfant. L'imposition des mains, c'est un geste qu'on peut poser dans la famille. On peut imposer les mains à ses petits-enfants. On peut bénir ses enfants, ses petits-enfants au nom du Seigneur. La Bible nous le montre. Nous pouvons utiliser l'imposition des mains pour prier pour des malades, pour prier pour des nouveaux chrétiens afin d'appeler l'effusion de l'Esprit sur eux, pour prier pour les chrétiens afin d'appeler sur eux des grâces particulières. Il y a des moments où les chrétiens aussi ont besoin de recevoir de Dieu des grâces particulières. Vous êtes chrétien depuis des années et puis vous sentez que votre foi est... Eh bien, ça peut être un moyen par lequel on demande à Dieu de réveiller quelque chose dans la vie d'une personne. On peut demander certaines grâces, alors la libération de certains dons spirituels, mais aussi demander des grâces de force, de joie, de paix. Je me souviens notamment d'une fois, c'est juste un exemple, dans une église, une personne qui avait reçu la conviction qu'il y avait dans l'église tout un ensemble de gens qui étaient attaqués par un esprit de mort. Alors, ce sont des esprits impurs qui existent et qui peuvent littéralement étrangler quelqu'un en lui enlevant toute paix. Alors, vous savez ce que c'est ne pas avoir de paix, c'est-à-dire ne pas être bien dans sa peau, mais quand vous êtes pris dans des esprits impurs qui vous tourmentent, qui vous enlèvent la paix, eh bien, ça peut être une manière de demander à Dieu de déposer sa paix dans la personne. On peut aussi imposer les mains dans ce genre de conditions pour demander la paix de Dieu sur quelqu'un, la force de Dieu sur quelqu'un, la joie de Dieu sur quelqu'un. Pour bénir les enfants dans l'église, pour bénir les chrétiens, on peut utiliser l'imposition des mains. Pour bénir un couple, par exemple, qui se marie, pour bénir quelqu'un qui fait un vœu public, on peut aussi bénir dans différents types de conditions dans l'église locale. Alors, vous voyez qu'on peut bénir dans plein de conditions, mais tout ça est réglé par l'Écriture. Parfois, on en a tiré des grandes conclusions, notamment des messes de bénédiction des animaux de compagnie, de voitures. Là, on est complètement hors de ce que la Bible prévoit. On est bien d'accord que ça, c'est complètement... on oublie tout ça. Mais il y a des conditions ou des situations dans lesquelles on peut avoir à bénir les gens. On impose les mains aussi pour, comme on l'a dit, consacrer des nouveaux serviteurs, pour installer des gens dans une charge, pour envoyer des nouveaux missionnaires, et puis, comme on l'a dit, pour bénir l'Assemblée au nom du Seigneur. Question, est-ce qu'on impose les mains pour chasser les démons ? Alors, ce que je viens de dire, là, c'est pour... c'était pas pour chasser le démon, c'était pour appeler la paix de Dieu sur quelqu'un. Maintenant, pour chasser les démons, c'est un geste que sauf exception, qu'on ne trouve pas spécifiquement pour chasser les démons. On le trouve pour prier pour les malades, mais pour chasser les démons, c'est différent. Mais c'est tout à fait normal, parce qu'en réalité... Chasser un démon, ça se fait non pas par imposition des mains, mais ça se fait par prière d'autorité. C'est ça qu'on voit dans les Écritures. Par prière d'autorité, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, pour que la personne puisse être vraiment libérée, il y a besoin aussi, il faut jamais l'oublier, d'une vraie conversion. Alors quand on parle ici de non-croyants, oui, on peut prier avec autorité, mais il faut aussi une vraie conversion. Sans vraie conversion, ça reste une personne qui est sujette à tout. Donc il faut une vraie conversion, il faut une vraie repentance pour sceller la délivrance. L'imposition des mains, dans ce cas-là, peut intervenir quand la personne est libérée, quand la personne, par exemple, s'est repentie, qu'elle est en marche avec Dieu pour demander cette fois-ci l'action du Saint-Esprit sur elle. Donc l'imposition des mains ne va pas être utilisée pour chasser le démon, mais elle peut être utilisée pour ensuite confier la personne à Dieu et demander la grâce de Dieu sur la personne, et notamment demander que le Saint-Esprit puisse pleinement remplir, fortifier, encourager la personne. Les attentions et les précautions. L'imposition des mains est un geste que l'on pose sous la direction du Saint-Esprit dans le cadre établi par Dieu. Ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un geste pour rigoler. C'est un geste qu'on fait sous la direction du Saint-Esprit, dans le cadre établi par Dieu. Encore aujourd'hui, il y a des réunions chrétiennes où vous arrivez, vous chantez, tralali, tralala, et puis le président vous dit, ben, président du culte vous dit, ben maintenant apposez les mains à votre voisin. Et puis ça ne va pas. Ça, c'est du désordre. L'imposition des mains, c'est un geste particulier qu'on fait sous la direction du Saint-Esprit. On ne le fait pas comme ça, on le fait parce que Dieu indique que c'est un moment de le faire, que c'est une manière de le faire et que c'est le cadre pour le faire. L'imposition des mains n'a pas de puissance en elle-même. C'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui veut agir, qui veut toucher, qui veut guérir. Très important aussi, le Saint-Esprit n'est pas limité à agir dans l'imposition des mains. C'est un geste que la Bible nous montre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne passe que par là pour agir. Vous pouvez être guéri sans imposition des mains. Si on prie pour vous à la réunion de prière toutes les semaines, Dieu vous touche sans que jamais personne vous ait imposé les mains, vous pouvez être guéri. D'accord? Vous pouvez être encouragé par le Seigneur, rempli du Saint-Esprit sans imposition des mains. C'est un geste qui parfois va avoir son sens et Dieu n'est pas limité à agir dans le geste. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, c'est pour ça que parfois, il y a certains chrétiens dans l'autre extrême, il faudrait leur imposer les mains toutes les semaines. Mais ça ne va pas. On n'est pas dépendant de ce geste-là. Ce n'est pas ce geste-là qui fonde notre foi. C'est un geste qui vient à des moments particuliers, pour des raisons particulières. Mais l'Écriture nous montre clairement que c'est un geste institué par Dieu. Ce geste s'inscrit dans le plan global de Dieu, qui est d'édifier son Église, de toucher des nouvelles âmes, de remplir les chrétiens pour le service, pour la gloire de Dieu. C'est un geste qui ne vient pas comme ça pour le plaisir, pour la fantaisie. C'est un geste qui vient pour le plan de Dieu, pour que Dieu puisse réaliser son œuvre comme il l'a prévu. Comme il l'a prévu. Vous lirez chez vous Actes 8, 14 à 17, à votre aise, vous lirez chez vous, qui est un texte qui nous montre que Simon, qui était un magicien, il avait découvert qu'il se passait plein de choses avec l'imposition des mains, et du coup, il s'était dit, bon, ben, je vais essayer de donner de l'argent, comme ça j'aurai le même don, et tous ceux à qui j'imposerai les mains, il va leur passer plein de choses. Hein, ça, c'est vraiment une conception magique de l'imposition des mains. C'est comme si c'était, voilà, un geste qui règle tous les problèmes et qu'on peut faire comme ça. Attention à cette tendance-là qui peut nous guetter aussi. Simon était un ancien magicien, il s'était soi-disant converti, et il pensait qu'avec ce don spirituel, il pourrait être vecteur de puissance, d'actes miraculeux. Il le voyait comme un geste magique. Attention, ce n'est pas du tout ça que la Bible dit. Si vous imposez les mains à quelqu'un et que Dieu n'a pas décidé de faire quelque chose, il ne va rien se passer. Si vous imposez les mains à un malade et que Dieu n'a pas décidé de le guérir, il ne va rien se passer. Si vous imposez les mains à quelqu'un pour le remplir ou quoi, pour qu'il soit encouragé ou quoi, et que Dieu a décidé de ne pas le faire, il ne va rien se passer. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu lui-même qui agit et qui conduit à l'accomplissement de ce geste. Autre chose aussi, l'imposition des mains est un geste qui se réalise toujours dans un esprit de prière. On pourrait dire que c'est un geste de prière, pratiquement. C'est une modalité de la prière. C'est un geste que l'on fait en étant inspiré dans la prière et que l'on réalise dans la prière. En d'autres termes, on sait que, justement, comme on vient de le dire, c'est Dieu lui-même qui peut agir. Et donc, on le pose en demandant à Dieu, en suppliant Dieu, en dépendant de Dieu et en sachant que c'est lui seul qui peut agir. Donc, on le pose dans la prière. L'imposition des mains est un geste que l'on doit poser avec sagesse et discernement, pour plusieurs raisons. Alors, vous connaissez un verset qui est incontournable sur le sujet. C'est 1 Timothée 5, verset 22, qui dit ceci: N'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose pas les mains avec précipitation. Alors, le contexte de ce passage, d'1 Timothée 5, c'est le contexte de l'installation des responsables. puisqu'on l'a vu, les responsables sont installés par imposition des mains. Ben, dans le contexte, ce que l'apôtre est en train de dire à Timothée, il est en train de dire, n'installe pas avec précipitation des responsables. C'est ça qu'il est en train de dire. N'installe pas des responsables avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que imposer les mains, c'est une responsabilité. Surtout quand il s'agit d'installer des responsables, c'est une responsabilité. Et donc, il lui dit, fais attention. Parce que si tu imposes les mains à quelqu'un, et après, et plus tard, il est écrit, ben, et que plus tard, il se révèle être un gugus, un farfelu, ou voilà, tu t'associes au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, fais attention à qui tu imposes les mains, parce que tu vas être tenu pour responsable des actions, des fautes de cette personne. Conserve-toi pur. Donc, dans le contexte, ça signifie attention avec le choix des responsables et merci que la Bible nous le dise, mais la vie de l'Église en général nous le montre. Attention avec le choix des responsables parce que c'est souvent là que ça dérape. Le verset parle de ce contexte-là, mais on a beaucoup d'éléments pour pouvoir faire une extension du contexte. En d'autres termes, il leur dit ça pour les responsables, mais on peut le dire en général. N'imposons pas les mains avec précipitation. N'imposons pas les mains à n'importe qui, dans n'importe quel contexte, pour n'importe quelle raison. Parce que, encore une fois, c'est un geste d'importance. C'est un geste qui a ses vertus, mais qui aussi ses dangers. Alors, vous avez des choses qui sont écrites nulle part dans la Bible, mais que normalement, vous allez tous trouver que c'est logique. Si vous vous faites imposer les mains par quelqu'un qui est occultiste, si on sait transmettre certaines grâces, hein, comme l'apôtre Paul qui avait transmis un don spirituel, c'est bien, mais si vous avez un occultiste qui vous impose les mains, vous êtes mal barré. Quelqu'un vous impose les mains et qu'il est clairement en dehors du plan de Dieu, complètement rebelle à Dieu, c'est pas positif. D'accord? Donc, il faut faire attention à qui nous impose les mains. C'est pour ça que on a vu que, en général, ça se passe dans l'Église avec les responsables de l'Église, qui ne sont pas parfaits, n'est-ce pas, mais qui, en général, sont censés être là pour quelque chose. Ensuite, il y a aussi un danger de transfert spirituel de la personne à qui on impose les mains vers celui qui impose les mains. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible, mais quand on entend les témoignages, parce que ça fait pas 3 ans que les gens imposent les mains, hein, donc on sait que il faut aussi faire attention à qui on impose les mains. Pour la même raison, si vous imposez les mains à un occultiste ou à quelqu'un qui... Danger. Donc, c'est pour ça que c'est un geste qu'on fait avec vigilance. N'oublions pas que nous avons un être spirituel dans lequel il n'y a pas que l'esprit, il y a notre être, mais il y a aussi parfois des esprits impurs qui peuvent habiter les personnes, il y a des liens spirituels, il y a des mauvaises choses aussi qui peuvent être en nous. Nous devons être prudents avec ce geste également. Nous devons imposer les mains après avoir prié, en connaissant la situation de la personne, ne pas laisser n'importe qui nous imposer les mains, ne pas imposer les mains à n'importe qui. Par exemple, en général, on n'impose pas les mains, comme je le disais, dans des cadres d'inconversion, sauf si on prie pour un malade, dans le cadre de l'évangélisation. Vigilance aussi, une autre vigilance à avoir. L'imposition des mains n'est pas un raccourci ou un substitut dans la vie spirituelle. Ça, c'est aussi un autre danger. L'imposition des mains n'est pas un raccourci. L'imposition des mains ne remplace pas autre chose dans notre vie. Par exemple, la conversion. On ne convertit pas quelqu'un en lui imposant les mains. C'est un choix particulier, c'est une démarche personnelle. La lutte pour la sanctification. L'imposition des mains ne va pas m'épargner ce que je dois faire pour crucifier ma chair, pour abandonner le péché, pour abandonner le monde, pour renoncer au mal. Ce n'est pas un geste qui vient remplacer ce que je dois faire dans ma vie spirituelle. Ce n'est pas un geste qui remplace la vie de prière. Je prie jamais, je m'approche jamais de Dieu, mais on m'impose les mains et puis tout va être réglé. Non. C'est pas un geste qui remplace la confiance en Dieu. Ce n'est pas un geste qui remplace l'obéissance à la parole. Il y a des moments où nous avons des choses dans nos vies où Dieu nous dit juste « obéis à la parole ». Obéis à la parole et tu vas voir ta délivrance. Donc l'imposition des mains ne vient pas tout régler. Hein, si vous avez si vous êtes en colère contre quelqu'un, ben, l'imposition des mains ne va pas remplacer le pardon que vous devez donner à la personne. C'est quelque chose qui vient en plus, ce n'est pas un raccourci, et aussi, ça ne court-circuite pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on pose ce geste-là que Dieu est forcé d'agir comme nous avons décidé. C'est un geste qui vient dans un cadre particulier, et nous ne devons donc pas oublier tout ça. Notre sanctification, notre vie de prière, notre obéissance à la parole, c'est ça le fondement. Et ce n'est pas l'imposition des mains qui est un fondement de notre vie. Nous avons le fondement de notre marche avec Dieu et elle vient en plus à des moments particuliers pour des raisons particulières. Alors, l'onction d'huile. On va en parler, je vais juste aller à l'essentiel, ça va ? Parce que comme ça, vous n'allez pas faire un scandale. Même si, bon, vos scandales... L'onction d'huile. Alors, important aussi, vous connaissez qu'il y a un texte majeur sur l'onction d'huile dans la Bible. Mais il y en a un autre qu'on connaît moins. Nous connaissons le texte de Jacques, chapitre 5, sur l'onction d'huile. Mais il y a un autre passage, déjà dans l'Évangile, Marc 6, 12 à 13. « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » L'onction d'huile était déjà pratiquée dans les évangiles par les apôtres. Et donc c'est un geste qu'on trouve dans Jacques, pour l'église locale, mais que l'on trouve également dans le contexte de la mission de Jésus au travers de ses apôtres. On voit donc que l'imposition des mains et l'onction d'huile sont deux gestes qui peuvent intervenir dans la prière pour les malades. Dans l'évangile, on voit parfois qu'ils imposent les mains, mais on voit aussi qu'ils oignent d'huile les malades. Ce sont deux gestes qui répondent à la même manifestation de la grâce de Dieu. Dieu veut manifester l'arrivée du royaume de Dieu. Dieu veut manifester sa grâce, sa bienveillance envers les hommes, sa grâce de pardon envers les hommes. Et l'imposition des mains et l'onction d'huile répondent à cette volonté de Dieu de montrer sa grâce, sa bienveillance envers les hommes. Onction d'huile, oindre d'huile, ça veut dire appliquer de l'huile sur quelqu'un. Donc, onction d'huile, ça veut dire appliquer de l'huile sur quelqu'un. Dans l'Antiquité, on l'utilisait comme médicament. Vous pourrez lire Luc 10, 34. Et dans l'Antiquité, on l'utilisait également pour consacrer les rois, les souverains sacrificateurs et parfois les prophètes. C'était des gens qui étaient consacrés par onction, comme on dit. Nous voyons qu'elle est également utilisée pour la prière en faveur des malades dans le cadre de l'église locale. Ainsi, l'onction d'huile est un autre geste, mais qui vient aussi prendre sa place dans le peuple de Dieu. Elle accompagne la prière de consécration, mais elle accompagne également la prière d'intercession. Comme l'imposition des mains, l'onction d'huile est un signe visible de la grâce invisible de Dieu. L'onction d'huile vient dire la présence de la grâce de Dieu. Vous savez que l'huile est aussi symbole du Saint-Esprit. L'onction vient dire la présence et la grâce de Dieu qui est présente auprès de la personne et qui se matérialise dans le geste de l'huile. L'huile signifie l'action de l'Esprit de Dieu sur la personne, l'Esprit Saint qui guérit, qui restaure, qui relève, mais aussi l'onction de Dieu qui oint de force et de puissance. Vous savez que quand on parle de quelqu'un, on dit « ah oui, il est oint » ou « elle est ointe ». Ça veut dire la personne bénéficie justement de cette présence particulière du Saint-Esprit sur elle Et l'onction d'huile peut être un geste dans lequel on fait cet appel, justement, de la puissance de l'Esprit sur quelqu'un. Alors, lisons le passage pour clôturer. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors on va juste commenter ce passage-là et ensuite clôturer. Comme on l'a dit, l'onction d'huile manifeste la bienveillance du Seigneur envers le malade. Dieu veut restaurer, guérir et être présent auprès du malade. Premièrement, pourquoi appeler les anciens ? Vous avez vu le passage qu'il appelle les anciens de l'Église. Pourquoi appeler les anciens ? L'onction d'huile est un moment important pour ceux qui sont malades parce que ça les relie à la communauté chrétienne. Les anciens viennent prier pour le malade, mais ils viennent aussi comme représentants de l'Église. Quand vous êtes alité pendant des mois et des mois, quand vous êtes chez vous pendant des mois et des mois, c'est compliqué de se sentir loin de la communauté chrétienne, du peuple de Dieu. Et les anciens viennent comme représentants du peuple de Dieu auprès du malade pour signifier que le malade est pleinement en communion avec l'Église locale. Vous connaissez ce passage qui dit que si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. La présence des anciens vient dire que l'Église est là avec le malade. Mais aussi, la présence des anciens est là pour signifier la présence de Dieu lui-même auprès du malade. La présence du Seigneur lui-même qui soutient, qui fortifie le malade malgré sa souffrance. Vous avez remarqué l'expression « qu'il appelle les anciens de l'Église ». Alors c'est un verset qui n'est pas anodin. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ça a deux importances. La première importance, c'est que c'est le malade qui, dans sa foi à lui, doit faire appel aux anciens de l'Église. Ce ne sont pas les anciens qui doivent s'imposer pour faire le geste. C'est le malade qui, ressentant le besoin de la grâce de Dieu, ressentant le besoin du toucher de Dieu, ressentant le besoin de la communion avec l'Église locale, va dire « j'ai besoin des anciens ». Alors, certaines versions, vous lirez dans vos Bibles, certaines versions ont l'expression « qu'il fasse appeler les anciens de l'Église ». Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que parfois on peut être en incapacité de le faire. D'autre part, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on n'avait pas d'autre moyen de le faire. Mais aujourd'hui, c'est assez facile de contacter les anciens de l'Église, par un SMS ou quoi. C'est le malade qui ressent le besoin et qui fait appel au responsable de l'Église. On ouvre une parenthèse en disant, c'est une logique que nous devons garder. Dans nos besoins spirituels, nous devons avoir ce réflexe de faire connaître nos besoins aux personnes auxquelles nous voulons qu'ils répondent et qu'ils soient présents à nos côtés. Alors, il y avait une question, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant, de toute façon, Vous êtes calme là, donc je vois que j'ai le temps. Et puis, Patrick est plus gentil que Valentin. Parce que Valentin, la semaine passée, si je dépassais, ça allait mal se passer. Mais Patrick, et puis Patrick et moi, on se comprend. Donc, mais une question, par exemple, quand un malade est incapable de faire appel, vous avez quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, et qui ne sait pas faire appel au responsable de l'Église, certains disent, ben moi, si jamais la personne n'appelle pas elle-même, je n'y vais pas. Parce que la Bible dit qu'il fasse appel aux anciens de l'Église. C'est pas très cohérent. En réalité, si la personne est malade, qu'elle est chrétienne de l'Église locale, qu'elle est dans le coma, par exemple, et que son épouse, son père, sa mère dit, ben, est-ce que vous voudriez bien venir prier pour mon enfant, mon mari ou quoi? Ça se comprend tout à fait, ça peut se faire tout à fait, puisque on se base sur la foi générale de la personne. En connaissant la personne, en sachant qui c'est, on sait que la personne aurait fait appel ou que la personne se confiait en Dieu ou que la personne était en demande de la grâce de Dieu. Mais donc, il faut garder le principe. Le rôle de l'Église, c'est de faire savoir qu'on peut appeler les responsables. Mais ce ne sont pas les responsables qui doivent d'eux-mêmes proposer l'onction d'huile. Pourquoi est-ce que les anciens doivent prier lorsqu'ils font l'onction d'huile ? Premièrement, ils doivent prier pour la guérison du malade. C'est un sujet, c'est pour ça qu'ils prient, pour la guérison du malade. Vous avez vu le verset 15 qui dit « Et le Seigneur le relèvera. » Le Seigneur le relèvera. Ça ne veut pas dire que forcément il va être guéri, mais ça veut dire que Dieu est capable de relever le malade. Deuxièmement, les anciens vont prier pour la visitation de Dieu auprès du malade. Ils vont prier pour que Dieu soit là, qu'il fasse partager sa paix, sa faveur, sa force, sa joie au malade. Les anciens vont confier le malade aux bons soins du Seigneur. Et ensuite, les anciens vont aussi prier pour l'affermissement de la foi du malade. La maladie, ça nous éprouve dans notre foi, ça nous éprouve dans notre projet de vie. Et les anciens vont aussi prier pour que Dieu puisse affermir la foi du malade, encourager le malade et qu'il puisse tenir bon. L'onction d'huile, c'est important de le noter, c'est un geste qui est posé au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Elle signifie l'autorité du Seigneur et c'est aussi pour ça que ce sont des personnes qui ont une autorité qui posent ce geste. Alors clairement, l'imposition des mains peut tout à fait être faite en même temps que l'onction d'huile. Il n'y a pas d'opposition claire, ce sont deux gestes qui viennent ensemble, ce sont deux gestes qui se complètent. Et nous avons eu la chance que Anne-Marie nous partage son témoignage mardi sur ce que sa maman a vécu lorsque les anciens ont prié pour elle avec l'onction d'huile et l'imposition des mains. Et c'était un témoignage très édifiant qui nous montre justement l'application de ce passage-là. Si vous ne connaissez pas le témoignage, vous deviez être à la réunion de prière. Alors, important, avant de clôturer, quel est le lien avec le pardon des péchés ? C'est un sujet important. Vous avez vu que dans le passage, il est écrit « Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. » Vous savez que dans la Bible, il existe un lien fréquent entre la maladie et le péché. Je sais que ça a fait débat il y a quelques mois notamment suite à une intervention. Et donc, c'est pour ça que j'en parle aussi pour insister là-dessus. La Bible nous le montre clairement. Vous lirez Matthieu 9, par exemple, 2 à 8, il n'y a pas moyen de passer à côté. Il y a un lien entre la maladie et le péché. Ce qui signifie que tout le monde n'est pas malade pour des raisons physiques. La Bible l'établit clairement. Tout le monde n'est pas malade pour des raisons physiques. Parfois, on peut être malade aussi pour des raisons spirituelles. Vous connaissez Matthieu 9, vous irez lire, mais vous connaissez aussi ce fameux passage qui nous parle de la Sainte Cène, dans lequel il est clairement dit que, à cause de la prise de la Sainte Cène sans discernement, certains sont malades. Ça veut dire que on doit ne pas oublier cet aspect-là des choses. Ce qui est merveilleux, c'est que le texte nous donne le bon équilibre. Le texte dit quoi ? Il dit « S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'il n'a pas forcément commis un péché. C'est ça. Le texte lui-même indique que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a forcément commis un péché. Il explique, le texte explique lui-même qu'il peut arriver qu'on soit malade à cause d'un péché. Et donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Chaque chrétien doit être conscient de cela. Le malade ne doit pas perdre de vue ce lien-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je dois me torturer toute la nuit pour savoir quel péché j'ai commis pour avoir cette maladie ? Non, ça veut dire que simplement je dois me demander est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose que je n'ai pas confessé à Dieu, que je n'ai pas présenté à Dieu, qui peut être cause de ce problème que j'ai. Ça s'arrête là. Le problème, c'est qu'il faut le rappeler parce que aujourd'hui, nous sommes en réalité très légers avec le péché, comme disait Tina dans sa prière. Nous sommes très légers avec le péché et il y a plein de chrétiens qui ne se posent même plus la question. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de dire que si je suis malade, c'est que j'ai péché. Le problème, c'est juste de se dire, je ne dois pas oublier de me poser la question. Parce que ça peut être une cause d'un problème de maladie. Et donc, le malade doit examiner sa conscience. Et dans le cas de Jacques, chapitre 5, les anciens doivent inviter le malade à se poser la question. Les anciens ne doivent pas faire le gratte-gratte, comme on gratte les voitures le matin pour dire « Alors, c'est quoi ton péché ?» Non, mais ils doivent inviter le malade à se demander « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites dire au Seigneur avant que nous prions. Pourquoi? Parce que c'est important de ne pas prier si c'est une cause spirituelle. C'est important de régler la cause spirituelle avant de prier. Et donc, ça, c'est important, ne l'oublions pas. Et ça doit être dit dans nos églises, parce que sinon, on va prier pour tout le monde, en oubliant qu'il y a des gens qui sont malades pour des raisons spirituelles. Vous êtes dans des situations, je donnais cet exemple-là, d'amertume envers quelqu'un, de colère envers quelqu'un, vous êtes dans des situations irrégulières dans votre vie pour telle et telle chose, dans tel et tel domaine. Nous devons nous poser la question de dire, est-ce que j'ai bien tout confessé au Seigneur et est-ce que j'ai ma conscience qui est pure devant le Seigneur? Et donc, il peut arriver que le malade soit amené à une prière de repentance en même temps que la prière avec l'onction d'huile, que le malade soit invité aussi à se repentir s'il le souhaite, s'il le souhaite. Alors, vous voyez que le verset qui suit dit ceci, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Vous voyez que le lien est direct. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ça veut dire qu'il y a aussi des moments où je dois affronter la chose, je dois affronter mon péché, je dois affronter ma désobéissance afin d'être guéri. J'ai besoin d'affronter mon péché, mais j'ai aussi besoin que les autres prient pour moi, que les autres prient avec moi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si la maladie est due à un péché, le pardon est un préalable à la guérison. Et donc, ne négligeons pas notre repentance personnelle. L'Église ne va jamais vous demander si vous n'avez pas un péché dans votre vie. Si vous êtes malade, on prie pour vous, point. Mais chacun d'entre nous, on connaît notre conscience et on peut donc s'examiner. Ça, vous lirez chez vous. Conclusion, ça va. Vous aurez mangé à 13 heures. Conclusion, à retenir. L'imposition des mains et l'onction d'huile sont des gestes qui sont présents dans l'Écriture. Ce sont des moyens par lesquels Dieu veut agir en communion avec la prière par le Saint-Esprit. Ce sont des moyens par lesquels Dieu veut agir. Ce sont des gestes qui signifient que Dieu est présent dans son Église. C'est ça qui doit nous réjouir. Dieu est présent dans son Église. Dieu est présent pour réconforter celui qui souffre, pour guérir, pour aussi remplir de l'Esprit, pour nous faire vivre des choses avec le Saint-Esprit. Mais Dieu est aussi présent dans l'Église pour se consacrer des hommes et des femmes à son service. Lorsque nous choisissons des responsables, lorsque nous prions pour des responsables, c'est pas juste nous qui choisissons, c'est Dieu lui-même qui agit dans ces personnes, parce qu'il est présent dans son Église. Ce sont des gestes qui signifient le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Vous savez que les guérisons dans l'Évangile, c'est ça que ça veut dire. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dieu est là pour guérir, pour restaurer, pour aider. Il n'est pas lointain, il n'est pas désintéressé, mais il est avec nous, voulant nous toucher, voulant nous restaurer. Rien dans les Écritures ne nous permet de mettre de côté ces gestes-là, si ce n'est une mauvaise lecture des Écritures. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que ces gestes ne doivent plus être posés, qu'ils n'ont plus de valeur, rien du tout. Mais aussi, rien ne nous permet d'en faire une utilisation frileuse. Nous devons éviter l'excès. Il ne faut pas qu'après le culte, tout le monde veuille qu'on lui impose les mains. On dira non. Mais il ne faut pas non plus avoir peur de ce que Dieu a prévu. Si Dieu prévoit des choses, nous devons accueillir sa parole telle qu'elle est. Ne négligeons pas les moyens de grâce et de bénédiction que Dieu nous a donnés. Nous aurions tort de nous concentrer sur eux. Si maintenant ma vie chrétienne tourne autour de l'imposition des mains, il y a un problème. Si j'attends avec impatience, « Ah, quand est-ce qu'on va m'imposer les mains ?» il y a un problème. Ma vie de prière, ma sanctification, ma marche avec le Seigneur, c'est ça l'essentiel. Mais nous devons en même temps ne pas les oublier. La vigilance est de rigueur, le discernement aussi. Et tout cela n'est possible que si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit et que nous laissons le Saint-Esprit conduire toutes choses. Amen. Merci pour votre patience.